Une semaine d'actualité.
Éric Bataillon.
Bonjour, ravi de vous retrouver cette semaine et merci de votre fidélité. Comme chaque samedi, avec la rédaction, nous allons revenir sur 7 jours d'information. Je vous rappelle que vous pouvez podcaster ce rendez-vous hebdomadaire sur le site de la radio www.rfi.fr. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, Frédéric Ancel, bonjour.
Bonjour.
Docteur en géopolitique, professeur de sciences politiques et de relations internationales à la Paris School of Business, enseignant à Sciences Po Paris, votre dernier ouvrage paru, Mon dictionnaire géopolitique aux presses universitaires de France. Frédéric Ancel, tout au long de cette émission, nous allons parler d'Israël et de cette échéance du 1er juillet fixée par Benjamin Netanyahou pour annexer une partie de la Cisjordanie. Mais avant cela, un mot de l'actualité sanitaire concernant Israël et les territoires palestiniens, bien entendu. Alors que de nouveaux foyers de contamination apparaissent, obligeant les autorités à revenir partiellement sur le déconfinement, cette crise sanitaire vous semble-t-elle avoir été gérée, être gérée correctement ?
Écoutez, d'après tous les avis compétents, oui, Israël est l'un des pays du monde qui a connu la mortalité la plus faible. Il y a eu environ 200 victimes. D'ailleurs, il faut pondérer ce chiffre parce que sur 200 tués, vous avez plusieurs dizaines de Haredim. Donc, ce qu'on appelle les Haredim sont les craignants Dieu, c'est en fait les ultra-orthodoxes. Bon, dont on sait qu'un certain nombre de rabbins ont considéré que tout ça n'était pas très sérieux et qu'ils devaient continuer à pouvoir communier dans la ferveur des synagogues pleines. Et là, évidemment, vous avez les clusters, comme on dit, en grand nombre. Pour le reste de la population, qui a été très civique, très obéissante en quelque sorte, pourquoi ? Parce qu'en temps de guerre, même s'il s'agit d'une guerre contre un virus, globalement, la population est habituée à respecter très fidèlement et très scrupuleusement les consignes de sécurité. Donc globalement, oui. Alors maintenant, ce que vous dites est intéressant. C'est vrai qu'il y a un retour d'un certain nombre de clusters. Alors, j'ai envie de vous dire, moi je ne suis pas virologue, j'ai envie de vous dire, regardez ce qui se passe à Pékin. Regardez ce qui se passe dans un certain nombre de pays, non seulement d'Amérique latine bien sûr, mais aujourd'hui même d'Europe, où on est extraordinairement prudent dans la mesure où manifestement, même s'il ne s'agit pas d'une deuxième vague, en tout cas pas encore, où manifestement, là, le caractère extrêmement contagieux de ce virus continue à provoquer la panique. Et oui, c'est vrai, et c'est le cas. D'ailleurs, davantage pour le territoire israélien lui-même que pour les territoires palestiniens, sans doute du fait d'une interaction commerciale ou économique plus forte entre, allez, pour faire court, le Grand Tel Aviv, disons, le poumon économique d'Israël, et d'une part et de l'autre côté, les Palestiniens qui globalement voyagent moins.
Et Frédéric Ancel, y a-t-il une coopération, sinon une entente, entre Israël et les territoires palestiniens pendant cette crise qui est toujours en cours, rappelons-le ?
Alors, la réponse est oui. Alors là, pour le coup, ce que vous appelez territoire palestinien, c'est l'autorité, bien sûr, palestinienne de Mahmoud Abbas. Alors oui, simplement parce que cette coopération, elle existe dans tous les domaines. Alors, attention, elle risque d'être fortement menacée, mais je pense qu'on va y revenir, s'il y a effectivement, à partir du 1er juillet, d'une manière ou d'une autre, une forme d'annexion. En revanche, de certaines zones. En revanche, jusqu'à présent, en tout cas, et depuis l'établissement, il faut le dire et il faut le répéter, en 2005, de la présidence de Mahmoud Abbas, après la mort de son prédécesseur Arafat quelques mois auparavant, il y a toujours eu une coopération, y compris sur le plan sécuritaire. Donc du coup, là, d'un point de vue sanitaire, oui, la coopération s'est maintenue. Là, je suis absolument formel et catégorique. Heureusement, d'ailleurs, pour tout le monde, ça risquerait d'être menacé s'il y avait effectivement une mise en application du point programmatique d'annexion de Netanyahou.
Bien, nous reviendrons sans doute sur ce dernier point, évidemment la coopération éventuelle entre l'autorité palestinienne et les autorités israéliennes, et sur bien d'autres points tout au long de cette émission, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre application Pure Radio. Avant cela, place à l'actualité dans le monde hors Afrique.
Sept jours dans le monde.
Et l'on s'intéresse d'abord à l'Europe face à la crise sanitaire, avec la réouverture partielle des frontières intra-européennes. C'était lundi matin. Écoutez l'analyse factuelle qu'en faisait Nicolas Falaise du service international.
France, Allemagne, Belgique et Grèce font partie des pays qui rétablissent ce lundi la libre circulation entre leur territoire et le reste de l'Union européenne. Pour l'Autriche, ce sera mardi. L'Espagne annonce qu'elle attendra le 21 juin pour ouvrir ses frontières avec les autres pays de l'Union, à l'exception de son voisin, le Portugal. Le Portugal qui, lui, vise le 1er juillet pour lever les restrictions de circulation avec les autres pays européens. Le Danemark ne s'ouvre pour l'instant qu'aux voyageurs venant d'Allemagne, de Norvège ou d'Islande. La Norvège, qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais qui partage avec elle l'espace Schengen de libre circulation, ne rouvre ses frontières qu'aux voyageurs des autres pays nordiques, sauf la Suède. D'autres États maintiennent des exceptions, estimant que le pays d'origine est une zone à risque. La Hongrie, par exemple, continue de fermer la porte aux voyageurs venant de France. Enfin, l'entrée sur un territoire reste parfois assortie d'une mesure de contrôle médical.
L'Irlande a un nouveau gouvernement. Il s'agit d'une coalition de centre-droit avec les écologistes. Un attelage qui exclut les nationalistes du Sinn Féin, pourtant arrivé en tête en termes de voix. Emeline Vin nous détaille l'accord de gouvernement.
C'est un programme de gouvernement largement influencé par le Parti Vert. Parmi les mesures acceptées par le Fine Gael et le Fianna Fáil, tous deux de centre-droit, l'augmentation de la taxe carbone, davantage d'investissements dans les transports en commun et la rénovation des logements mal isolés. En échange, le Fine Gael a réussi à faire écarter la hausse de l'impôt sur le revenu. Le programme intitulé « Notre futur partagé » contient aussi la gratuité de la contraception féminine, l'ouverture du débat sur le cannabis médical et de nouveaux droits pour les locataires. Jamais le Fine Gael et le Fianna Fáil, tous deux centenaires, n'ont gouverné ensemble, mais l'accord contient une autre nouveauté, le partage du poste de Premier ministre. D'abord, Micheál Martin, le chef du Fianna Fáil qui pèse le plus lourd dans cette future coalition, puis le patron du Fine Gael prendra le relais en décembre 2022. Le programme gouvernemental doit être validé en interne par chacun des trois partis. Résultat, annoncé d'ici la fin de semaine prochaine, avec la formation d'un possible gouvernement dans la foulée.
Frédéric Ancel, rouvrir les frontières intra-européennes, est-ce une façon de marquer l'existence d'un territoire commun ?
Ah oui, complètement. D'une part, c'est exactement ce que vous venez de dire. D'autre part, c'est aussi revenir et peut-être essayer d'effacer, hein, revenir sur ce qui s'est produit au début de la crise, c'est-à-dire une espèce de cacophonie qui a fait craindre et qui fait peut-être encore craindre que décidément l'Europe n'est pas sur la bonne voie et qu'elle n'est pas très mûre, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'elle est très clivée. Entre, alors évidemment, nord, sud, est, ouest, en fonction de la nature des clivages, mais en tout cas, il s'agit, me semble-t-il, aujourd'hui, d'essayer de faire comprendre aux différentes, enfin, aux opinions publiques respectives des 27 que, bah, au fond, on est quand même sur la même longueur d'onde, qu'on se fait confiance, hein, que pour l'essentiel, on a quand même géré dans une, sinon unanimité, en tout cas dans une certaine communauté, cette crise sans précédent.
Et sur la politique irlandaise, le monde d'après ressemble diablement au monde d'avant. Le diable, justement, ce serait le Sinn Féin, arrivé en tête lors des élections, mais qui ne gouvernera pas ?
Oui, c'est ça. Non, mais quand vous parlez du monde d'après, c'est un concept auquel je ne crois absolument pas. Et vous savez, lorsqu'on a travaillé, ce qui est mon cas, un petit peu sur les temps longs, chers à l'historien français Fernand Braudel, dire que les crises sanitaires pour remonter... La grande peste noire de 1347, et je vous fais grâce, cher Éric Bataillon, de la peste justinienne du 7e siècle, en passant par la grippe espagnole et encore la grippe asiatique du 20e siècle, en réalité, il n'y a jamais de monde d'après. Autrement dit, c'est business as usual, c'est vrai sur le plan politique, c'est vrai sur le plan économique. L'exemple irlandais que vous donnez est excellent, et d'ailleurs, on vient de l'entendre. Je pense que pour l'essentiel, peut-être pas sur le plan strictement sanitaire et hospitalier, bon, bien sûr, il y aura toujours des améliorations, du moins on peut espérer, mais dans les grandes lignes, dans les grandes tendances, dans l'exercice du pouvoir, on voit à quel point un certain nombre de régimes politiques instrumentalisent la crise sanitaire à des fins politiques, parfois à des fins répressives, hein, qu'en réalité, non, il n'y aura pas de monde d'après à cause du coronavirus, malheureusement.
Une semaine d'actualité.
L'histoire semble se répéter en Syrie. Depuis au moins 2 semaines, la ville de Souaïda vibre de manifestations anti-Bachar al-Assad. Cette ville du sud du pays est pourtant contrôlée par les forces du régime. Cette semaine, ce mouvement de protestation a été particulièrement réprimé et de nombreuses personnes arrêtées. Sami Boukhalifa a pu joindre un militant de l'opposition à Souaïda. Pour Rayan Maarouf, le régime de Damas n'a rien appris de ses erreurs passées.
Ce régime ne sait rien faire d'autre à part réprimer. Depuis le début, ces manifestations de Souaïda sont pacifiques. Les gens sortent dans la rue, dans le calme. Il n'y a pas eu d'acte de vandalisme. Ils brandissent des pancartes et scandent des slogans pour réclamer un état de droit, un pays démocratique, et aussi pour exiger la chute de ce régime et le départ des puissances étrangères présentes en Syrie. Mais ce lundi, le cortège de manifestants a été violemment réprimé, à la fois par les forces de l'ordre, mais aussi par des miliciens du parti Baas, le parti au pouvoir. Cette milice a organisé une contre-manifestation, donc favorable au pouvoir. Et ces militants pro-régime ont attaqué les anti-régimes à l'aide de gourdins et d'armes blanches. La police a ensuite arrêté quelques manifestants anti-régime qui sont désormais portés disparus.
L'armée turque a lancé en début de semaine une opération militaire aérienne dans le nord de l'Irak appelée Griffe de l'Aigle, qui est devenue Griffe du Tigre mercredi, en s'accompagnant de l'envoi de troupes au sol. L'objectif est, comme en Syrie, de combattre les forces militaires kurdes accusées par Ankara d'être des bases arrières du PKK. La Turquie invoque la légitime défense. Du côté irakien, les réactions sont faibles. Lucille Wasserman, à Bagdad.
Les tirs résonnent au nord de l'Irak, mais à Bagdad comme à Erbil, c'est le silence qui est assourdissant. Depuis le début de l'opération Griffe du Tigre lancée par Ankara, aucun communiqué n'a été publié par le gouvernement central, ni par celui de la région autonome du Kurdistan où les combats ont lieu. Les autorités irakiennes avaient convoqué l'ambassadeur de Turquie après des bombardements en début de semaine, mais la condamnation a été timide et depuis, silence radio. Il faut dire que les partis kurdes ne tiennent pas en estime le PKK perçu comme un frère ennemi dont les bases militaires échappent à leur contrôle. Pas question de toute façon pour le PDK au pouvoir dans ces régions du Nord de se brouiller avec la Turquie avec qui il entretient de très bons rapports commerciaux. Du côté de Bagdad, les relations avec le PKK ne sont pas plus chaleureuses. En 2017, le gouvernement central avait même dénoncé la présence de ses combattants comme une déclaration de guerre. Difficile d'imaginer que cette opération militaire turque ne se soit donc planifiée sans l'accord des autorités irakiennes, selon les experts. Des responsables du PKK, eux, ont critiqué le gouvernement irakien pour ne pas avoir pris une position plus ferme pour dénoncer, disent-ils, ses ingérences dans la souveraineté de l'Irak.
Un livre qui sent le soufre, il est signé John Bolton. Dans cet ouvrage, au titre limpide, The Room Where It Happened, la pièce où ça s'est passé, et dont des extraits ont été publiés cette semaine par des journaux américains, l'ex-conseiller à la sécurité nationale règle ses comptes avec Donald Trump. Il critique notamment les décisions du président, qui auraient été, selon lui, motivées essentiellement par des calculs de réélection. Anne Corpet à Washington.
Un comportement fondamentalement inacceptable qui érode la légitimité même de la présidence. C'est ainsi que John Bolton commente la conduite de Donald Trump sur la scène internationale. L'ex-conseiller à la sécurité nationale raconte notamment qu'en juin 2019, le président américain a souligné auprès de son homologue chinois l'importance des agriculteurs et de l'augmentation des achats chinois sur le résultat de l'élection. Il a demandé à Xi Jinping de faire en sorte qu'il l'emporte, écrit John Bolton. L'ex-conseiller de la Maison-Blanche assure par ailleurs que le président américain a encouragé le président chinois à continuer la construction de camps de concentration pour les Ouïghours. Trump pensait que c'était la meilleure chose à faire, affirme-t-il. Comme pour lui apporter un démenti cinglant, le président américain a promulgué ce mercredi la loi votée quelques jours plus tôt au Congrès qui instaure des sanctions contre la Chine pour les mauvais traitements infligés à cette minorité.
À noter que le président Trump a passé plutôt une mauvaise semaine. Non seulement Facebook a censuré des publicités de sa campagne électorale qui rappelaient un peu trop la période nazie, mais également la Cour suprême a validé le statut qui protège 700 000 jeunes migrants aux États-Unis, les fameux Dreamers, statut que le président américain voulait annuler. Frédéric Ancel, tous ces revers et ce livre de John Bolton sont-ils de nature à déstabiliser la campagne de Donald Trump pour sa réélection ?
Et je vais vous dire, c'est même pas sûr. Ce n'est même pas sûr parce que dans toutes les enquêtes d'opinion, on s'aperçoit que la base électorale, que le noyau dur en quelque sorte, hein, qui a permis l'élection, déjà assez ratée en fait, hein, il y a 3 ans et demi de cela, hein, puisqu'il a, je rappelle qu'il a été élu avec une minorité de voix par rapport face à Mme Clinton à l'époque. En tout cas, cette minorité, ce noyau dur qui lui a permis de l'emporter, le suit toujours. Si on ajoute à cela un certain nombre d'évangélistes que M. Trump n'a cessé de flatter avec succès, hein, ces 3 dernières années, semble-t-il, bah, on peut parvenir, malgré tout, à une réélection. C'est d'autant plus vrai que le candidat démocrate, tout respectable soit-il, n'est pas considéré comme un candidat très très fort et qui, en tout cas, maîtrise la communication aussi bien que M. Trump, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Autrement dit, même si la table a été renversée dans le plan économique à cause du coronavirus, parce que là, pour le coup, on allait vers une réélection relativement facile de M. Trump, même si ça, aujourd'hui, ben, il ne détient plus, en tout cas, cette espèce de rente de succès économique, en quelque sorte, il peut encore être réélu, et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui redoute la plupart des observateurs qui considèrent que sa politique est pour le moins inconséquente.
En effet, affaire à suivre. L'offensive turque contre les Kurdes en Irak, sans que personne s'en émeuve, y compris, semble-t-il, au Kurdistan irakien, que doit-on en penser ?
Alors, il y a deux choses, me semble-t-il. La première, c'est l'illustration du fait que les Kurdes progressent vers l'idée et vers la réalisation d'une nation, mais que ce n'est pas encore fait. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Dans les années 70-80, il y avait, vous en souvenez sûrement, une véritable guerre civile entre les Kurdes du nord de l'Irak, ceux du sud du Kurdistan irakien, ceux de l'Iran n'avaient pas du tout rejoint les mêmes causes, et puis avec la guerre civile en Irak, mais aussi et surtout en Syrie, et avec notamment l'épisode de Kobané, on avait vraiment le sentiment, justifié je crois, qu'on allait vers la montée en puissance d'un sentiment d'une représentation pan-kurde, en quelque sorte, de nation. Alors aujourd'hui, on voit bien quand même qu'avec le PKK, qui reste un parti très puissant quand même, hein, hors de cette territorialité kurde, eh bien, il y a encore des clivages extrêmement durs et que, au fond, les Kurdes d'Irak aujourd'hui, pour la grande majorité d'entre eux, ne soutiennent pas les Kurdes, leurs frères, entre guillemets, ou sans guillemets, Kurdes du PKK, et qui préfèrent qu'effectivement, les Turcs leur tapent dessus. La deuxième démonstration, c'est que décidément, là, le pouvoir turc n'en fait qu'à sa tête. Ça, c'est vrai dans ses frontières en termes de droits de l'homme et de droits de la presse, notamment. C'est vrai à l'extérieur des frontières, jusque, y compris en Libye, où on a affaire à une montée en agressivité et en impérialisme du pouvoir turc, qui n'était pas le cas, d'ailleurs, il y a encore quelques années. Je ne suis pas en train de stigmatiser l'AKP au pouvoir, ni même, d'ailleurs, la personne de M. Erdogan, parce que lui est arrivé au pouvoir en 2003, un an après son parti ultra-conservateur, et jusqu'en 2009-2010, on avait plutôt affaire à une politique relativement prudente. Et depuis, on assiste à une véritable dérive, et je pense que ces coups portés sur le territoire souverain, malgré tout, de l'Irak, prétendument à titre de légitime défense, mais si tout le monde le dit, c'est très facile à dire, illustre cette dérive.
Frédéric Ancel, parlons maintenant du sujet pour lequel vous êtes invité de cette émission. Les Israéliens et les Palestiniens ont donc l'œil rivé sur le calendrier et la date du 1er juillet. Ce jour marquera en effet le début de l'annexion par Israël de certains territoires en Cisjordanie. Qu'est-ce qui a poussé Benjamin Netanyahou à prendre cette décision pour le moins controversée ?
Mais une campagne électorale. C'est-à-dire que Benjamin Netanyahou, dont je rappelle que la première électorale date quand même de 1996, bon, et qu'il avait emporté de justice contre Shimon Peres. Bon, il en est, si ma mémoire est bonne, à sa 8e campagne électorale, donc il l'a de nouveau, même si c'est de justesse et dans des conditions acrobatiques, n'empêche qu'il l'a de nouveau emporté. Et à chaque fois, vous retrouvez les mêmes projets programmatiques en quelque sorte, qui vont toujours dans le sens du nationalisme ou de l'ultranationalisme, avec à chaque fois la mise sous contrôle, sous souveraineté, donc l'annexion en fait en bon français, d'un certain nombre de territoires. Parfois, et plus souvent d'ailleurs qu'à son tour, il évoque même des frappes, en fait de véritables guerres, alors soit contre le Hamas, soit contre le Hezbollah, soit contre l'Iran, si l'Iran poursuit ses efforts nucléaires et que sais-je encore. Et qu'est-ce qu'on constate, Éric Bataillon ? Depuis 1996, c'est que Netanyahou, au pouvoir, ne fait pas la guerre, et il n'annexe pas. Alors, je ne dis pas que sa politique n'est pas nationaliste, c'est une politique très nationaliste. Mais, en l'occurrence, qui lui a permis de fédérer une fois encore la droite israélienne, qui est quand même très composite, hein, et jusqu'à l'extrême droite, ça a été cette annexion de Emek HaYarden, c'est-à-dire, en hébreu, c'est la vallée du Jourdain, que les Israéliens connaissent bien parce qu'ils la traversent en long, en large, pour aller de Jérusalem au nord en permanence, sans qu'il y ait besoin d'annexer quoi que ce soit. D'ailleurs, quand vous regardez les enquêtes d'opinion depuis l'élection de Netanyahou, qui s'est faite de justesse quand même, hein, eh bien, vous constatez quelque chose de très intéressant, c'est que les Israéliens lui rendent grâce pour la sécurité relative dont ils jouissent et une économie relativement prospère, mais certainement pas sur ils ne lui rendent pas grâce de cette volonté de vouloir annexer les territoires. C'est quand même très intéressant.
Justement, que pensent les Israéliens ? Je parle bien des Israéliens de la rue, ceux de Tel Aviv ou d'Haïfa. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Qu'en pense l'opinion publique israélienne ?
Alors, vous avez un pays, bon, comme très souvent, et comme d'ailleurs dans beaucoup de pays démocratiques, il y a un partage de 50-50. Les gens sont plus, vous avez globalement, la moitié des gens sont plutôt favorables à Netanyahou et à la droite ou au centre droit, et puis l'autre moitié plutôt défavorable. Mais ce qui est intéressant, c'est que les points les plus, ou les projets les plus nationalistes, ou les plus, les plus vindicatifs de Netanyahou, ce ne sont pas les plus appréciés. Et là, lorsque Netanyahou a parlé de l'annexion de la vallée du Jourdain, vous n'aviez plus qu'un tiers des gens qui étaient favorables. Un tiers qui n'avait pas d'opinion, qui ne se prononçait pas, ce qui est encore une fois très intéressant, du fait que les Israéliens, franchement, l'économie et la sécurité, ça leur suffit, et c'est pas la peine de rajouter quelque chose à un territoire qui, de toute façon, d'ailleurs, à leurs yeux, fait déjà quelque part partie intégrante de l'État d'Israël, en tout cas c'est dans leur espace mental, et un troisième tiers qui est très opposé. Et moi je pense que Netanyahou, alors on n'est pas encore le 1er juillet au moment où nous discutons, moi je pense qu'il ne le fera pas, je peux bien sûr tout à fait me tromper, je pense qu'il va faire autre chose de très symbolique, il va peut-être annoncer l'annexion d'une ville, d'une implantation israélienne comme par exemple Maale Adumim qui domine la vallée du Jourdain, peut-être une implantation ici ou là. Je suis absolument convaincu que, comme d'habitude, il a fait le matamor pour, en réalité, accoucher de quelque chose qui ressemblera à une souris. Alors qu'il ne sera pas nécessairement légal du point de vue international, entendez-moi bien, mais qui ne correspondra pas à ce qu'il avait annoncé avec fracas pendant la campagne électorale.
Mais les colons, qu'en pensent-ils, eux, qui sont les premiers concernés, évidemment, par ces annexions ?
Non, mais eux, non seulement ils sont d'accord avec ce programme, mais ils le considèrent comme un mot. Pourquoi ? Pour la raison que je vous ai dite. C'est-à-dire que depuis 1996, Netanyahou annonce énormément de choses, souvenez-vous. D'abord, il avait annoncé que Oslo allait être cassée immédiatement. Netanyahou n'a pas cassé Oslo. C'est pas lui qui l'a fait. Netanyahou a annoncé à maintes reprises l'annexion d'un certain nombre de territoires et la démultiplication des implantations les plus petites, y compris celles qui étaient illégales. Il a laissé prospérer les implantations, c'est même le moins qu'on puisse dire, mais par rapport à ce qu'il avait promis, il en a fait en fait très peu. Et j'ajoute un point important, si vous le permettez. En 2005, lorsque Ariel Sharon, son successeur et prédécesseur d'ailleurs, se retire de la bande de Gaza, Netanyahou, qui est au gouvernement, entendez-moi bien, Éric Bataillon, il est au gouvernement. Le Pinouï, c'est-à-dire le retrait de la bande de Gaza par Israël, passe à une voix près au gouvernement nationaliste à l'époque, Netanyahou s'est abstenu. Netanyahou s'est abstenu sur Gaza, où il y avait 20 implantations. Donc c'est pour ça que je vous dis que, évidemment, pour, à chaque campagne électorale, il ne veut pas être débordé sur sa droite. Donc il doit fédérer, et tout ce qu'il peut raconter en termes d'annexion et en termes de politique nationaliste liée à Eretz Israël, au Grand Israël, etc., une fois arrivé au pouvoir, les colons lui reprochent amèrement, alors pas de ne rien faire, il ne sait pas rien, mais pas assez par rapport aux promesses électorales qu'il leur avait faites.
Oui, les colons principaux intéressés côté israélien, et bien entendu les Palestiniens principaux intéressés par cette demande d'annexion annoncée par Netanyahou pour le 1er juillet.
Sept jours en France.
L'actualité en France, comme en Europe, fortement marquée cette semaine par les annonces d'un déconfinement sanitaire accéléré. Dimanche soir, le président Emmanuel Macron s'est adressé aux Français dans une séquence toute politique. Un discours qui lui a permis de tourner une page délicate et d'en appeler à la résilience des citoyens pour se réinventer. Valérie Gass l'a écouté pour nous.
Emmanuel Macron a voulu annoncer lui-même ce qu'il a appelé une première victoire contre le virus, qui se traduit par un passage de tout le territoire en zone verte, à l'exception de la Guyane et de Mayotte, et surtout par un retour en classe de l'ensemble des enfants, de la crèche au collège. Des annonces concrètes et attendues qui vont permettre aux Français de retrouver le plaisir d'être ensemble, ce qui a permis au passage à Emmanuel Macron de rappeler qu'il avait fait le bon choix en lançant le déconfinement le 11 mai dernier. En s'adressant aux Français, le chef de l'État a voulu tourner la page de ce moment où la santé a été placée au-dessus de l'économie et engager une nouvelle étape, celle de la reconstruction de l'économie qu'il veut forte, écologique, souveraine et solidaire. Un discours volontariste censé donner le ton de sa politique pour les deux années à venir, auquel il a aussi ajouté un appel à l'unité et une prise de position sur la question du racisme qui agite la société, face auquel il s'engage à être intraitable, tout en mettant en garde contre le communautarisme et en envoyant un message de soutien aux forces de l'ordre. ordre. Emmanuel Macron a posé les bases d'un nouveau projet en invitant les Français à se réinventer avec lui.
Et mardi soir, Emmanuel Macron est parti à la chasse aux vaccins, alors que l'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas ont annoncé samedi dernier un accord avec le laboratoire européen AstraZeneca pour la fourniture de doses de vaccins. À prix coûtant, le président français s'est rendu sur le site lyonnais du laboratoire Sanofi. Il s'agit de sécuriser l'approvisionnement, voire de relocaliser la production. Le récit de Sébastien Duhamel.
Une communication bien rodée pour deux messages clairs. Le premier, martelé par Emmanuel Macron ces derniers temps, redonner à la France son indépendance, sa souveraineté dans le domaine de l'industrie de santé. Le deuxième message, c'est que Sanofi, un fleuron français, est un acteur incontournable pour y parvenir. Le jeu des annonces s'est donc réalisé en deux temps. C'est d'abord le laboratoire qui, par communiqué, a annoncé un investissement de 610 millions d'euros. Le site de Marcy-l'Étoile se verra renforcé par un centre de recherche dédié aux vaccins, alors qu'une nouvelle usine de production verra le jour à Neuville-sur-Saône, toujours en région lyonnaise. Celle-ci devrait déboucher sur la création de 200 emplois selon Sanofi. Dans la foulée, c'est Emmanuel Macron qui s'est exprimé devant notamment les dirigeants du groupe. Il l'a assuré. L'objectif est de mettre Sanofi et la France à l'excellence de la lutte contre le virus et aider à gagner la bataille de l'emploi comme de la reconquête industrielle. Sanofi faisant partie d'un plan plus large, le président n'a pas hésité à sortir des mots qui pouvaient faire peur. Il y a peu encore, Emmanuel Macron a promis d'ici l'été un mécanisme de planification pour corriger toutes les vulnérabilités de la production française en matière de santé. Une première enveloppe de 200 millions d'euros doit ainsi être débloquée pour financer les infrastructures de production ainsi que de recherche et de développement.
L'état-major de l'armée de terre rend public son plan stratégique pour les 10 prochaines années. Selon son chef, le général Burkhardt, l'armée doit désormais se préparer à des conflits de haute intensité. Franck Alexandre.
Lorsqu'il évoque l'avenir, Thierry Burkhardt est un général inquiet. Le rapport de force est devenu la règle sur la scène géopolitique mondiale, sur fond de remilitarisation sans complexe, analyse-t-il froidement. Le chef d'état-major de l'armée de terre constate aussi que sur le terrain, les adversaires testent désormais assez durement ceux qui leur font face, sans avoir peur d'aller à l'incident. Le récent accrochage en Méditerranée entre la frégate française Courbet et des navires turcs qui n'ont pas hésité à illuminer de leur commande de tir de missiles le navire français venu contrôler un cargo turc en est la parfaite illustration. Le général Burkhardt veut par conséquent préparer ses soldats à des conflits bien plus durs. Mon ambition, souligne-t-il, est de forger une armée terre durcie, prête à faire face aux chocs les plus rudes jusqu'à l'affrontement majeur. Face à des crises régionales qui se multiplient, l'objectif de l'armée terre, qui compte 115 000 militaires, sera donc de consacrer son énergie à la préparation opérationnelle. Une préparation étendue également à de nouveaux champs d'action, comme le cyber, une réorientation en quelque sorte pour être prêt à s'engager dans un conflit de haute intensité.
Frédéric Ancel, le discours du président de la République a été diversement commenté. Beaucoup entendent les mots prononcés, rassembleurs et républicains, mais attendent des actes. C'est cela pour vous l'enjeu des deux dernières années du quinquennat, des actes plutôt que des mots?
Les deux. Je pense que les mots sont et restent très importants, surtout pour un président qui est arrivé au pouvoir très jeune, qui ne connaissait pas bien, et pour cause, les questions régaliennes, les grandes questions régaliennes, qui se rappellent à lui. Hein. On le voit avec un virus mondial, on le voit avec ce qui a été très intelligemment dit, et ce qui est très intéressant, là, il y a un instant, par votre collègue, à savoir cette remontée en force d'un certain nombre de périls, y compris en termes de hard power, et pas seulement sur le plan culturel. Hein. Donc je pense que les mots qu'il a employés ces dernières années, notamment lors de ces différentes scénographies mémorielles, sont importants. 6 fois le terme de guerre, 6 fois lors de son discours en plein confinement, enfin son discours vindicatif contre le Covid, c'est pas rien. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va continuer à parler, à dire et à parler fort, et quelque part tant mieux, mais vous avez raison, des actes. Et notamment l'un des actes qui va, l'un des groupements d'actes plus exactement, illustré par le terme très fort de souveraineté, concerne bien évidemment la Chine. Je pense que là, on a affaire, non seulement avec la France, mais avec un certain nombre de pays d'Europe et vraisemblablement d'autres pays occidentaux, notamment en Amérique, on a affaire à une reconsidération de cette délocalisation massive de produits, de matériel, alors pas seulement sur le plan sanitaire et même pas seulement sur le plan industriel, à un pays comme la Chine, dont le régime politique, et vous apprécierez mon sens de la litote, ne fonctionne pas aujourd'hui sur une politique et sur des valeurs qu'on peut qualifier de tendres, passives et pacifiques. Bon. Donc on a affaire, me semble-t-il, hein, et c'était, je crois, l'un des esprits de ce discours, à une réaffirmation d'une souveraineté qui ne signifie pas un souverainisme rance et plus ou moins xénophobe, pas du tout, mais à une souveraineté économique seule à même à assurer une souveraineté globale.
Et sur la doctrine, la nouvelle doctrine de l'armée de terre, êtes-vous d'accord avec l'analyse des militaires sur les conflits à venir dits de haute intensité ?
Oui, les conflits de haute intensité, on en a plus connu en Europe, alors ex-Yougoslavie excepté bien évidemment. Ce qui se passe en Ukraine orientale n'est pas un conflit de haute intensité, même si malheureusement ça a provoqué déjà plusieurs centaines de victimes. En Méditerranée, vous n'en avez plus, même s'il y a eu cette terrible guerre civile en Algérie dans les années 90, on n'appelle pas ça chez les géopolitologues de la haute intensité. Là, oui, effectivement, avec la montée en puissance phénoménale de l'armée chinoise et des budgets qui vont bien avec la montée en force d'autres budgets militaires très importants en Asie, dans une certaine mesure en Afrique, la Turquie bien évidemment, là aussi ça a été très bien illustré dans le sujet précédent, on risque d'avoir affaire à autre chose que des opérations entre guillemets de police, telles que François Hollande, chef des armées, car président de la République en 2013, a décidé de le faire, d'y procéder au Mali notamment. Vous voyez, c'est une grande opération de police, alors de nature militaire, mais globalement il s'agit surtout d'empêcher des djihadistes qui ne peuvent pas, eux, monter en haute intensité, d'arriver au pouvoir à Bamako et ailleurs. Mais là, on est avec ce chef d'état-major de l'armée de terre, on est sur autre chose, on est sur un risque, et c'est la première fois, Éric Bataillon, qu'on en parle sérieusement depuis la fin de la guerre froide. On est là sur, on envisage des risques, alors faibles, mais néanmoins on les envisage, des risques effectivement de lutte d'état à état, car de la haute intensité, parlons vrai, parlons juste, c'est bien évidemment des luttes, des combats qui auraient lieu entre états et entre états puissants.
Concernant Israël et la Cisjordanie, Frédéric Ancel, un homme semble avoir joué un rôle important auprès de Benjamin Netanyahou dans la perspective d'une annexion de territoire palestinien par Israël à partir du 1er juillet. Cet homme s'appelle Zev Ever, mais il est connu en Israël sous le surnom de Zambiche. Qui est-il exactement ?
Oui, alors c'est un conseiller de Netanyahou, c'est quelqu'un qui prône depuis très longtemps une politique nationaliste, qui considère d'ailleurs que, au fond, gauche ou droite, c'est pas le problème, mais qu'Israël doit, à vitam aeternam, garder un certain nombre de territoires considérés comme stratégiques. Alors, c'est la raison pour laquelle je dis au fond droite ou gauche, pourquoi ? Parce que le plan Alon, déjà de 67-68, ça ne rajeunit pas, qui était un travailliste, c'était quelqu'un de gauche, le général Alon. Et le général Alfer, en 93, lui aussi plutôt de centre-gauche, eh bien, préconisait déjà, à l'époque, avant le personnage que vous évoquez, l'annexion éventuellement unilatérale d'un certain nombre de territoires très peu, voire pas du tout peuplés de Palestiniens, comme c'est le cas d'ailleurs dans la vallée du Jourdain, parce que si vous exceptez Jéricho, il y a très peu de présence palestinienne, c'est du désert en réalité, et en même temps des territoires considérés comme stratégiques. Et effectivement, on a affaire là à une tendance qui est illustrée par ce personnage, mais pas seulement, à avoir de toute façon un rapport de force régional favorable, ce qui n'est pas faux, compris au sein de l'environnement arabe, on voit bien avec les États du Golfe, et donc aller à l'annexion, en prenant garde de ne pas froisser l'allié américain, sauf que justement en ce moment, on ne croise pas l'allié américain, et pour cause, c'est encore Trump au pouvoir, et qu'il faut faire vite parce qu'après Trump, on ne sait pas si ce sera aussi facile. Voilà à quoi correspond en fait, en quelque sorte, le socle de pensée de ce conseiller Netanyahou.
Est-ce la mouvance Jabotinsky, dont il partage le prénom, Zef, et aussi l'objectif politique, tout pour un État juif souverain ?
Ah oui, bah alors écoutez, Jabotinsky, c'est quelqu'un qui a été très très peu et très mal lu, parce que on en fait le parangon de l'ultranationalisme, ce qui n'est pas faux. Mais en même temps, Jabotinsky avait surtout préconisé ce qu'il appelle la muraille de fer, ce qui est en fait la dissuasion, c'est pas une muraille physique, c'est la dissuasion. C'est-à-dire que Jabotinsky considérait que, sans attendre la fin du mandat britannique, là on est dans les années 20 et 30, il faut proclamer l'État, d'une part, d'autre part, que si des Arabes vivent dans cet État, c'est très bien pour eux, mais il faut bien qu'ils comprennent que c'est quand même un État fondé pour et par le peuple juif, disait Jabotinsky, et trois, la dissuasion. Autrement dit, il faut être toujours le plus fort de façon à éviter de faire la guerre par dissuasion vis-à-vis de nos ennemis, quels qu'ils soient. Je vous le résume, mais en gros, c'était ça, Jabotinsky, et pas uniquement à la vallée du Jourdain. Donc oui, on est dans cette mouvance, mais vous savez d'ailleurs très bien que Benjamin Netanyahou lui-même est le fils de celui qui fut pendant de très longues années le secrétaire particulier de Vladimir Zev Jabotinsky, le père de Netanyahou, Ben Sion, qui est mort à New York il y a quelques années, à 101 ou 102 ans, en était toujours le très fidèle disciple, et Netanyahou lui-même est objectivement, authentiquement, un disciple de Jabotinsky.
7 jours en Afrique.
Nous poursuivrons donc ce panorama de l'actualité de la semaine avec la situation en Afrique. Le Mali, secoué par une contestation politique de la part d'un mouvement dirigé par l'imam Mahmoud Diko. Ce dernier, éminente figure religieuse et tenant d'un islam wahhabite rigoriste, réclame la démission du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, et organise d'imposants rassemblements dans le pays, notamment dans la capitale, Bamako. Il a su s'adjoindre les forces du Front pour la sauvegarde de la démocratie, qui regroupe des partis d'opposition, et d'Espoir Mali Koura, un mouvement de la société civile dirigé par le cinéaste et ancien ministre de la Culture, Cheikh Oumar Sissoko. Pour tenter d'apaiser cette grogne politique, économique et sociale, Mbeka s'est adressé à la nation. Serge Daniel a écouté son discours.
Un peu comme s'il répondait à l'imam Mahmoud Diko, chef du mouvement de contestation qui lui demande d'écouter le peuple, le président malien commence son adresse à la nation dans une posture très modeste. Ibrahim Boubacar Keïta.
J'ai suivi avec attention les récents événements qui se sont déroulés dans notre pays. J'ai entendu les colères et les cris. J'ai entendu les revendications et les interpellations.
Il annonce ensuite qu'il rencontrera bientôt les partis et associations membres du mouvement du 5 juin qui réclament sa démission.
Mon rôle est de prévoir les schémas de confrontation violente qui ne feront le bonheur de personne. C'est pourquoi j'invite au dialogue et je me réjouis de la perspective de rencontrer bientôt les acteurs du mouvement dit du 5 juin. Car rien ne saurait être au-dessus du Mali.
Par ailleurs, renouvelant sa confiance à son premier ministre Boubou Cissé qu'il vient de reconduire à son poste, le président malien se dit attentif aux contestations survenues après la publication définitive des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle. Ibeka.
Les dernières élections législatives ont fait l'objet de graves contestations dans certaines parties d'autres pays. Il nous faut tirer toutes les leçons de ces crispations.
Ma porte reste donc ouverte et ma main toujours tendue, termine le président du Mali.
Évariste Ndayishimiye a prêté serment jeudi en public dans un stade de la nouvelle capitale du Burundi, Gitega. C'est une première puisque cette prestation de serment se passait jusque-là devant le Parlement. Élu le 20 mai, le nouveau président avait vu son investiture avancer de 2 mois en raison du décès de son prédécesseur. L'Afrique et le débat sur la mémoire et l'histoire, relancé par le mouvement américain Black Lives Matter. Si l'héritage de la colonisation a tendance à s'effacer, il est encore présent dans l'espace public et génère des controverses. D'autant que beaucoup de jeunes Africains n'ont pas les outils culturels nécessaires pour bien connaître leur histoire. Dieudonné Gnamankou, professeur d'histoire au Bénin, appelle à une refonte des programmes scolaires pour y inclure davantage les travaux des historiens africains. Propos téléphone recueilli par François Marzet.
De la traite négrière, de l'esclavage, ne passe pas encore, il n'est pas encore enseigné comme il faut dans les écoles. Après les indépendances, les programmes scolaires avaient changé. Les premiers grands historiens africains de la décennie des indépendances, Joseph Tizerbo, Cheikhanta Diop, Ibrahim Babakaké et bien d'autres, avaient travaillé sur des programmes scolaires qui ont été enseignés dans les années 70 et les années 80. Mais ces dernières années, les programmes scolaires ont été revus. Les travaux des historiens aujourd'hui, leur adaptation, leur exploitation dans les manuels scolaires du primaire ou du secondaire prend des décennies. Ce qui fait que nous avons des manuels aujourd'hui scolaires qui ne sont pas à jour, qui ne reprennent pas les résultats des recherches des historiens béninois de ces 20 dernières années. Pourtant, au sein de la jeunesse africaine, il y a une grande quête pour l'histoire. Il y a des questionnements. Les jeunes Africains veulent comprendre l'histoire de l'Afrique. Et donc, face à ce questionnement-là, les programmes scolaires aujourd'hui ne sont pas à la hauteur, il faut le dire franchement.
Frédéric Ancel, faut-il déboulonner les statues, rebaptiser les terrains de foot ou les avenues des grandes capitales africaines ?
Ah, la géopolitique mémorielle, ça c'est un dossier brûlant. Et je pense d'ailleurs qu'il va nous occuper une bonne partie de ce 21e siècle. Et je ne plaisante pas, je pense que c'est ça procède du ciment, du ressort national. National au sens d'ailleurs générique du terme, c'est les symboles identitaires sont d'autant plus forts lorsque les crises sociales, comme c'est vrai d'ailleurs au Sahel et notamment au Mali, on vient d'entendre il y a un instant, sont importantes. Les gens ont besoin de se retrouver, les collectifs ont besoin de se retrouver sur des personnages, sur des valeurs, sur des symboles, sur des couleurs, sur des sonorités, etc. Et aujourd'hui, il y a une contestation, pas seulement en Occident, mais vous avez raison de le souligner, en Afrique notamment, qui n'en est pas nouvelle, une contestation d'un apprentissage qui est considéré par beaucoup de jeunes Africains notamment, comme soit encore trop complaisant avec l'ancien colonisateur occidental, soit avec un certain nombre de dictateurs au pouvoir de qui la fin de la colonisation, etc. Et j'ai presque envie de vous dire de manière un peu naïve que c'est aux Africains eux-mêmes d'en décider, de préférence le plus démocratiquement possible. Et ça, c'est quelque chose que les Européens ont fait aussi. Hein. C'est pas un problème uniquement africain. Regardez à quel point aujourd'hui, aux États-Unis, en Europe, en France aussi, puisque le président Macron, qu'on évoquait tout à l'heure, a été obligé, dans son discours général, d'évoquer le fait de déboulonner ou pas des statues. Enfin, c'est quand même le très même personnage de l'État. Bon. Donc c'est une vague universelle, en quelque sorte, hein, qui est en train de déferler. Et je pense, pour ma part, qu'il faut être extrêmement prudent. Parce que vous déboulonnez une statue, ça vous fait plaisir si vraiment vous considérez que ce personnage a été tout à fait ignoble, pourquoi pas d'ailleurs, c'est possible. Et une fois que vous l'avez déboulonné, eh bien, on n'a rien fait du tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas avancé d'un iota sur les questions sociales, sur les questions économiques, sur les questions de justice, notamment civique ou sociale. Et je crains qu'un certain nombre de régimes politiques, à bon compte et à très peu de frais, parce qu'une statue, ça coûte pas très cher, se débarrassent trop facilement de ces questionnements profonds.
Après la Turquie, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Égypte ou encore la Russie, voilà que l'Algérie s'invite dans le dossier libyen. Dans ce conflit très international qui oppose localement le gouvernement d'entente nationale de Tripoli à celui du maréchal Haftar à Benghazi et dont le contrôle des ressources pétrolières est l'objet de toutes les convoitises, Alger propose sa médiation. Elle a reçu un représentant du maréchal Haftar, en l'occurrence le président du Parlement libyen de Tobrouk, Ouda Ibrahim.
C'est une visite qualifiée d'importante à Alger. L'arrivée de Ragila Saleh donne plus de poids à la médiation algérienne. Dans le contexte actuel, elle ne peut qu'apporter de l'eau à son moulin et s'inscrire dans la perspective d'une initiative algérienne en construction. Car la défaite de Khalifa Haftar dans son projet de conquérir Tripoli rebat les cartes et redistribue le rôle des intervenants régionaux et internationaux dans cette crise. L'initiative algérienne va arriver car elle est réclamée par les Libyens, avait annoncé le porte-parole de la présidence algérienne, affirmant que cette initiative est à l'écart des jeux d'influence et de pouvoir. « Nous allons aider les Libyens à organiser des élections », a déclaré le président Tebboune la semaine dernière. Alger mène une véritable offensive diplomatique et multiplie le contact autour de la Libye. Le dossier libyen est devenu prioritaire pour Alger depuis l'arrivée de Abdelmajid Tebboune au pouvoir. Alger avait candidaté sans succès pour le poste d'envoyé spécial de l'ONU en Libye et avait annoncé sa disponibilité pour accueillir des pourparlers interlibyens.
Une situation internationalisée de ce conflit qu'il faut suivre, évidemment. Frédéric Ancel, nous continuons à parler de l'annexion annoncée par le gouvernement Netanyahou d'une partie de la Cisjordanie. Alors, côté palestinien, une offensive diplomatique a été lancée en direction du trio composé des Nations Unies, de la Russie et de l'Union Européenne afin de faire reconnaître la Palestine comme un État souverain et démilitarisé dans ses frontières de 1967. Sans les États-Unis, cette initiative peut-elle aboutir ?
La réponse est non au Conseil de sécurité. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit en 2011 et 2012. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée générale des Nations Unies, le vote à la reconnaissance de la Palestine comme État est passé, mais comme vous le savez, cher Éric Bataillon, les résolutions de l'Assemblée générale ne sont pas contraignantes, autrement dit, elles sont consultatives. Après, au Conseil de sécurité, un an plus tard, ce n'est pas passé, sans même d'ailleurs que les États-Unis soient obligés de mettre leur veto. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas 9 voix sur 15, il n'y en avait que 8 à l'époque, avec d'ailleurs l'abstention intéressante de la France. Donc ça a été un échec. Mais face à cette volonté d'annexion, encore une fois, on verra si le projet est mis à exécution ou pas, mais en tout cas, face à cette volonté, oui, il y a offensive diplomatique, mais non, tant qu'en tout cas, M. Trump est au pouvoir à Washington, elle ne peut pas aboutir. En revanche, il y a un deuxième volet qu'il ne faudrait pas oublier de cette offensive diplomatique palestinienne, qui est très intéressant, me semble-t-il, et qui consiste à dire pour le président Abbas, bien, puisque c'est comme ça, nous déposons les clés. C'est-à-dire que nous sabordons, en quelque sorte, hein, nous sabordons l'autorité palestinienne, et dorénavant, puisque vous voulez prétendre nous annexer, eh bien, soit, mais dans ce cas-là, vous prenez la responsabilité totale de la gestion totale des 2,5 millions de Palestiniens qui vivent dans nos territoires. Et ça, c'est un véritable cauchemar pour les Israéliens. Vous voyez, c'est un faux paradoxe. On joue presque à front renversé. Et cette menace-là, elle a été brandie à plusieurs reprises ces dernières années, au fil des échecs, des reprises des négociations. Mais enfin, tant qu'il y avait Barack Obama, il y avait encore un espoir, peut-être en tout cas, de remise sur les rails d'un processus de paix. On se souvient que John Kerry avait tenté en 2013-2014 d'aboutir. Ça n'avait pas abouti. Et à chaque fois, comme un serpent de mer, Mahmoud Abbas relance en quelque sorte ou réillumine cette épée de Damoclès. Et bien là, il le fait également. Donc vous voyez, on a affaire à une offensive diplomatique sur un double ton en quelque sorte. Et le deuxième, celui que je viens d'évoquer avec vous, n'est pas considéré comme le moins dangereux par les Israéliens. Il est considéré comme plus dangereux que celui du Conseil de sécurité, parce qu'encore une fois, de toute façon, Washington soutiendra les Israéliens.
Et qu'en est-il, Frédéric Ancel, des réactions possibles dans le monde arabe concernant cette annexion? On a pu lire, par exemple, récemment dans le quotidien israélien, Yedot Ahronot, la tribune de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Washington, une tribune rédigée en hébreu qui met en garde Israël contre cette annexion. La menace est-elle sérieuse?
Je ne le crois pas, c'est une épée de Damoclès en mousse. Regardez ce qui se passe ces dernières années, à chaque fois qu'Israël réannexe, même symboliquement, le plateau du Golan, conquis en 67 et annexé déjà d'ailleurs en 81. Regardez ce qui s'est passé lorsque le président américain Trump a transféré l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Regardez et écoutez a posteriori ce qui s'est passé, c'est-à-dire pratiquement rien. Et pratiquement rien dans le monde arabe. Pourquoi? Parce que, et vous le savez fort bien et vos auditeurs aussi, il y a aujourd'hui au sein du monde arabo-musulman une lutte extrêmement dure que je n'hésite pas à qualifier de guerre civile entre d'une part chiites et sunnites, avec évidemment le pôle Iran et le pôle Arabie Saoudite de part et d'autre, mais également entre nationalistes et islamistes. Regardez ce qui se passe en Égypte. Et de ce point de vue-là, la question palestinienne a basculé de conflit à simple contentieux. On est passé d'un conflit important, ou prétendument important, hein, aux yeux du monde arabe, à un simple contentieux. Et lorsqu'on voit la politique, on va l'appeler Israël ou israélo-palestinienne, des États du Golfe, y compris d'ailleurs des Émirats arabes unis, ces dernières années, eh bien, on ne peut que douter de la perspective d'une très grande sévérité de ces États vis-à-vis d'Israël. D'ailleurs, vous avez raison, hein, d'évoquer les Émirats arabes unis, qui est aujourd'hui l'État, d'abord le plus en pointe, de manière générale, mais l'État du Golfe, de la péninsule arabique, pardon, le plus proche, en réalité, ou qui s'approche le plus d'Israël. C'est vrai qu'il y a eu menace de la part des Émirats arabes unis, dont on ne sait pas très bien quoi, d'ailleurs. Mais vous avez raison de le souligner, c'est intéressant, en hébreu. Alors là, si vous voulez, il y a encore quelques années, c'eût été inconcevable. Vous voyez, je pense que les Palestiniens ne peuvent pas aujourd'hui attendre du monde arabe ce qu'ils auraient peut-être pu en attendre il y a encore 5 ou 10 ans.
Alors, on a bien compris aussi, Frédéric Ancel, que vous êtes assez dubitatif sur une éventuelle annexion à partir du 1er juillet. Vous pensez que c'est plutôt un effet de manche de la part de Benjamin Netanyahou. Mais en cas d'annexion, est-ce qu'un retour en arrière serait possible ?
Oui, le retour en arrière, justement, d'avant l'autorité palestinienne. Hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Je pense qu'à ce moment-là, Mahmoud Abbas mettra sa menace à exécution de manière plus ou moins formelle, plus ou moins exécutive sur le terrain. Il s'abordera à l'autorité palestinienne et il risque de s'en suivre un véritable chaos. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand vous parlez de retour en arrière, pour Israël, il peut s'agir d'un retour en arrière diplomatique dans la région, parce que il y a un instant, je mentionnais les États arabes, bon, bien sûr qu'ils ne feront fondamentalement, ils ne feront rien, ils ne feront évidemment pas la guerre à Israël, évidemment. Néanmoins, tout de même, Israël, ces dernières années, a obtenu un certain nombre d'acquis diplomatiques et commerciaux avec pas mal d'États africains, avec des États arabes, même si ce n'est pas encore officiel, et puis avec une partie de l'Europe, hein, qui entretient d'excellents rapports avec Israël, notamment depuis les années 90, et cet accord de libre-échange économique entre l'Union européenne d'une part, Israël d'autre part. Je ne pense pas d'ailleurs que cet accord pourrait être remis en cause, notamment parce que plusieurs pays d'Europe orientale sont tout à fait et inconditionnellement favorables à Israël. Néanmoins, il y aura vraisemblablement à ce moment-là un refroidissement des relations avec pas mal de chancelleries. Et je vous dirais que là, oui, il y aura sans doute une forme de retour en arrière, mais est-ce que c'est de nature à effrayer le camp nationaliste israélien au regard des rapports de force généraux? J'y crois pas.
Merci Frédéric Ancel, professeur de sciences politiques et de relations internationales à la Paris School of Business, enseignant en Sciences Po Paris. Un petit rappel du titre de votre dernier ouvrage paru en 2019, Mon dictionnaire géopolitique, s'est publié au PUF, les presses universitaires de France. Une semaine d'actualité réalisée cette semaine par Pauline Leduc. Retrouvez aussi l'émission sur la page Facebook Une semaine d'actualité. Je vous retrouve pour ma part ce soir à 19h40 temps universel pour une émission Orient Hebdo consacrée à la place des femmes dans l'islam soufi. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.
La marche du monde.